Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les adieux d'Alain Juppé à Bordeaux.
Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.
Et au-delà de ses larmes qui ne ressemblent pas au personnage public, Alain Juppé, qui part au Conseil constitutionnel, prononce un discours contre l'époque. L'envie me quitte, l'esprit public est devenu délétère. Nous l'écouterons et Rémi Brancato à Bordeaux nous racontera cette page d'histoire politique. Le taux de chômage sous les 9% à la fin de l'année dernière en France baisse marqué. L'objectif de 7% de chômage à la fin du quinquennat est-il atteignable? Nous verrons cela. Pas de garantie que tous les salariés du programme A380 d'Airbus soient gardés. Dernière déclaration de l'avionneur européen ce matin après l'annonce de la fin du programme A380. Qu'est-ce qui explique cet échec de cet avion géant? Quelles conséquences pour Airbus? L'invité de ce journal est l'expert aéronautique Gilles Gosselin. Dans cette édition encore, bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Des ratés au démarrage pour la campagne européenne de François-Xavier Bellamy, que se passe-t-il?
Eh bien, aucune banque ne veut pour l'instant lui prêter les 4 millions d'euros nécessaires.
Nous verrons cela en détail. Où la Chine investit-elle en Europe? Chronique de Delphine Simon, alors que le Parlement européen prend des mesures pour mieux surveiller les investissements étrangers. Le Premier ministre tunisien au micro de France Inter, et puis la météo. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Très belle journée.
Et oui, du soleil. Alors on pinaille un petit peu, quelques nuages élevés tout de même au nord, mais vraiment très discret. Un peu plus de nuages aussi vers l'Aude, vers l'Hérault. Du vent d'autan qui souffle jusqu'en région toulousaine. Température 11 à 18 degrés et 14 degrés à Saint-Valentin dans l'Indre en ce 14 février.
Et y a-t-il une recette de la chanson qui vous reste dans la tête? Question alors que la Reine des Neiges 2 est en préparation. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. À Bordeaux s'est déroulé ce matin un moment marquant de la chronique politique française. Pour deux raisons. D'abord, Alain Juppé prononçait ses adieux à la vie d'élu. Adieu à la mairie de Bordeaux qu'il avait conquise dans les années 90. Il part au Conseil constitutionnel. Mais le moment restera pour une autre raison. Ce que dit cette personnalité incontournable, c'est que dans le climat actuel, il est devenu très difficile d'être un homme politique.
La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat. Aujourd'hui, l'envie me quitte, tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites, dont tout pays a pourtant besoin, pourvu qu'elles ne se reproduisent pas par cooptation, mais qu'elles soient ouvertes à la société tout entière. Bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Voilà pour un extrait de ce discours prononcé en terrain conquis à l'hôtel de ville de Bordeaux. Applaudissements réguliers. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Rémi, vous êtes à Bordeaux pour France Inter avec Fabien Gosset. Racontez-nous cette page d'histoire politique vécue ce matin.
Une page qui se tourne, Bruno, dans ce salon du Palais Rohan, l'hôtel de ville de Bordeaux. Je suis un sentimental qui se cache bien à plaisanter, pince sans rire, comme à son habitude Alain Juppé. Ému aux larmes, c'est rare, on l'a entendu, un arrachement pour lui. Il quitte une ville qu'il a appris à aimer un jour de Saint-Valentin, un rôle de maire qu'il a appris à tenir après 48 ans de règne de Jacques Chaban-Delmas, lui aussi ancien Premier ministre. Il faut dire que Bordeaux aime les hommes d'État. Alain Juppé sera resté 24 ans avec 2 années d'exil au Canada. Après sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, Jean-Louis David, son adjoint à la vie urbaine, était déjà élu à son arrivée.
C'est un moment d'émotion intense. On voit défiler les images de tous les travaux, de toutes les réussites, de tous les échecs qu'on a pu partager pendant 25 ans. Je pense notamment au moment où il est parti au Canada, à cette époque-là.
C'est un moment similaire aujourd'hui.
Peut-être plus fort encore, parce que j'ai envie de dire que le départ au Canada, il y avait un espoir de retour. Là, on sait qu'il ne revient pas.
Alain Juppé qui a transformé cette ville noire endormie, disait-on en 95, avec le tramway, la rénovation des quais de la Garonne. Il avait encore tant de projets en tête, dit-il. Reste à savoir qui les portera aujourd'hui. Son adjoint aux finances, Nicolas Florian, est pressenti. Alain Juppé, lui, va servir la République une nouvelle fois en tant que sage du Conseil constitutionnel. Aucune fonction, a-t-il dit, n'inspire autant le respect.
Et c'est début mars qu'il doit prendre ses fonctions. Merci beaucoup Rémi Brancato en direct de Bordeaux. Alors lorsqu'il était à Matignon, comme quasiment tous les premiers ministres, Alain Juppé avait mis très haut sur la pile des dossiers la lutte contre le chômage. Eh bien, un chiffre important a été publié ce matin et il est bon. Le taux de chômage à la fin de l'année dernière était sous les 9%, au plus bas depuis 10 ans, 8,8 pour ce taux au sens du Bureau international du travail. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Bonne nouvelle, on le dit, on le redit, mais vu le contexte économique du moment, est-ce que l'objectif du gouvernement, taux de chômage à 7% à la fin du quinquennat, est atteignable? Il semble encore loin. Hein.
Le chômage de masse n'est pas une fatalité, se réjouit de son côté la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mais à y regarder de plus près, effectivement, tenir cet objectif présidentiel s'annonce pour le moins compliqué. Premier élément qui interpelle les économistes, la France a créé 3 fois moins d'emplois l'an dernier qu'en 2017, avec 106 000 créations nettes d'emplois l'an dernier, contre 328 000 en 2017. En 2017, le ralentissement de la croissance a elle aussi été revu à la baisse cette année. Un ralentissement de la demande en intérim, déjà constaté, qui n'indique pas non plus de reprise forte sur le marché de l'emploi à venir cette année. Bonne nouvelle, le taux d'emploi retrouve un de ses plus hauts niveaux depuis 40 ans, il est vrai. Mais le taux d'emploi des seniors reste lui aussi de plus en plus élevé et retarde donc l'accès des plus jeunes à l'emploi. Dernier bémol, le chômage de longue durée ne recule pas considérablement, comme on pouvait l'espérer. Il reste enkysté dans la société française pour les prochaines années, avec plus d'1 million de chômeurs concernés.
Le chômage et l'assurance chômage, les négociations de ce point de vue reprennent aujourd'hui entre MEDEF et syndicats, avec la question très sensible des contrats courts. L'actualité économique, c'est aussi Airbus, on y vient dans un instant. Mais d'abord, pour la première fois, directement et ouvertement, Thierry Bolloré, le directeur général de Renault, parle de Carlos Ghosn, toujours emprisonné au Japon. C'était ce matin, au micro de Maxime Debs.
C'est un choc énorme pour toute l'entreprise, pour toute l'Alliance. 20 ans d'aventure, de croissance, d'une telle singularité dans le monde automobile, c'est quelque chose qui nous marque tous. Ça a été la stupeur dans l'entreprise, vous l'imaginez bien. Ça a été même une forme d'inquiétude parce que la question était de savoir mais comment va-t-on continuer? Mais notre responsabilité à tous, à toutes les personnes qui sont ici, quels que soient leurs sentiments, leurs émotions, c'est de poursuivre l'œuvre au bénéfice de l'ensemble des clients, du personnel, naturellement des parties prenantes de l'entreprise et de l'Alliance. C'est ça qui est important.
Thierry Bolloré ce matin lors de la conférence de presse de présentation des résultats de Renault au micro de Maxime Debs. Alors est-ce que les salariés d'Airbus doivent s'inquiéter pour leur emploi? Le groupe européen dont on était habitué à chroniquer les succès a pris acte d'un échec ce matin. Airbus met fin à la production de son A380, le géant des airs. C'est le carnet de commandes qui était un peu désert. Bonjour Stéphane Iglesias.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
En direct de Toulouse, il y avait une conférence de presse ce matin. C'est au fond, l'A380, c'est un peu chronique d'un échec annoncé, Stéphane.
Oui, parce que Airbus aura finalement quand même livré 234 commandes d'A380 sur les 288 prévues d'ici 2021, mais c'est loin de l'objectif affiché des 1200 appareils qui étaient annoncés en 2007 lors du lancement du programme. Le marché depuis a évolué, les compagnies privilégient désormais les bimoteurs, c'est-à-dire deux réacteurs plutôt que quatre, comme l'A350 ou le 787 de Boeing. Guillaume Faury, futur PDG d'Airbus.
C'est pas la fin du programme, l'avion va continuer à voler, il est en service dans de très nombreuses compagnies et on va continuer à supporter ses clients. On a plus de 200 machines qui volent et Emirates a indiqué qu'ils allaient continuer à faire voler leur 380 au-delà de 2030. Vous savez qu'ils en prennent quand même 123 au total, donc c'est un chiffre qui est impressionnant. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut regarder devant, on est à l'époque où la consommation carburant ou le respect de l'environnement sont très importants et les nouveaux bimoteurs modernes sont très performants. Et vous avez vu que la commande d'Emirates qui a été associée à la réduction du nombre d'A380, c'est des 330 Neo, c'est du 350 et ça c'est les avions de l'avenir.
Il y aura peu de conséquences sociales avec l'arrêt du programme A380, selon la direction d'Airbus, qui indique aussi que jamais les résultats financiers de l'avionneur européen n'ont été aussi bons qu'aujourd'hui. Voilà qui ne consolera pas les amoureux de ce bel oiseau que reste l'A380.
Merci Stéphane Iglesis en direct de Toulouse. Le président exécutif d'Airbus dit également ne pas pouvoir garantir tout de même que le groupe conservera tous les salariés affectés au programme. On voit cela dans un instant. D'abord, explication sur l'échec de ce programme. Bonjour Gilles Gosselin.
Bonjour Bruno, bonjour à vous tous.
Expert aéronautique, vous dirigez AviaRebs qui représente en France toute une série de compagnies étrangères. D'abord, premier point, au fond, chez Airbus, on dit même pas mal après l'échec de l'A380, c'est pas si grave. Est-ce que vous validez cela ?
Je pense que quand on a investi entre 25 et 30 milliards d'euros dans un programme qui est un échec, je pense que ça reste malgré tout un échec.
Oui.
C'est un investissement colossal. Ça reste bien sûr un succès auprès du grand public. Je crois que c'est l'avion préféré des clients, des passagers, parce qu'il est unique, parce qu'il apporte un confort exceptionnel. Mais effectivement, après avoir investi 30 milliards d'euros, je pense que c'est un échec.
Alors,
clairement.
Il est beau, il est gros, les passagers l'aimaient bien. Pourquoi cet échec ?
C'est un avion qui a été conçu. La gestation a commencé fin des années 90. Le programme a été lancé en 2000 sur un postulat que les aéroports seraient congestionnés, que les slots seraient limités, c'est-à-dire le nombre de départs autorisés, et que donc on privilégierait des avions de grosse capacité pour réduire le nombre de départs. Cela n'est pas arrivé. Le trafic a connu une croissance depuis les années 2000 exponentielle. On est passé quasiment de 3 milliards à 6 milliards de passagers transportés par an, mais c'est plutôt les avions de capacité moyenne qui se sont imposés parce que les clients veulent plus de flexibilité dans leur voyage, ils veulent plus de départs, ils veulent pouvoir ajuster leur voyage en fonction de leurs besoins et ne pas être contraints par les horaires. Et si on prend par exemple une ligne comme Paris-New York qui est emblématique, il y a à peu près 12 départs par jour. Notre compagnie nationale et son allié Delta en opère à peu près la moitié, et seulement sur ces 12 départs, il n'y a qu'un A380. Parce qu'on privilégie l'offre, la qualité de l'offre, et la qualité de l'offre maintenant, c'est avoir un nombre de départs le plus réparti sur la journée pour offrir une qualité de service.
Ça signifie, Gilles Gosselin, que l'idée d'un avion qui transporte un demi-millier de personnes, c'est fini à jamais ?
Je ne pense pas. La question, est-ce que cet avion a été construit trop tôt ? L'avenir nous le dira. Il y a déjà eu des compagnies qui ont opéré des avions de 500 sièges. Je pense à notre compagnie aérienne française Corsair qui a opéré pendant longtemps des avions de plus de 500 sièges sur certaines destinations. Je pense qu'il reste un marché pour ce type d'avion. Après, avec la libéralisation du transport aérien, la principale préoccupation des compagnies aériennes, c'est bien sûr la rentabilité. La rentabilité au siège. Et quand on a un avion de si grande capacité, il faut savoir que le coefficient de remplissage nécessaire pour avoir une opération à l'équilibre doit se situer autour de 80%.
Oui.
Il est évidemment plus facile d'atteindre le point d'équilibre sur un avion de moyenne capacité que sur un avion de 500 à 600 sièges. Le transport aérien est quelque chose de très fragile parce que c'est un service très périssable. Une fois que les portes de l'avion sont fermées, les sièges vides sont invendus et c'est une perte. Donc la priorité des compagnies est de s'assurer un revenu minimum pour couvrir les coûts d'opération et c'est bien sûr plus facile sur un avion de moyenne capacité.
Merci beaucoup Gilles Gosselin d'avoir répondu très clairement à nos questions sur cet échec de l'A380. Alors quelles conséquences sociales ? Je le disais, le président exécutif d'Airbus dit on ne peut pas garantir que le groupe conservera tous les salariés affectés au programme A380. Cela dit, les syndicats sont moyennement inquiets. Écoutez la réaction de Jean-François Knepper, il est délégué central FO chez Airbus. Sauvegarder les emplois, est-ce qu'on sait faire ou pas là maintenant ?
C'est d'abord un échec commercial, il n'a pas trouvé preneur, donc c'est un échec industriel parce que finalement, au bout du bout, cet merveilleux outil ne passera pas sa 15e année, et ça c'est dommage. Et puis on fera tout pour que ce ne soit pas un échec et une catastrophe sociale.
Vous n'êtes pas inquiet pour les salariés, le reclassement se fera comme il s'est déjà fait dans d'autres circonstances ?
Oui, on sait faire ça dans Airbus et dans l'industrie aéronautique. Ça reste le dernier pan de l'industrie qui est encore viable en France. tout l'emploi industriel a disparu depuis plus de 30 ans et le seul pan de l'industrie qui reste encore debout, c'est celui de l'aéronautique. Et puis avec un carnet de commandes, encore une fois, de plus de 8-9 ans devant nous, on doit savoir passer ces difficultés.
Voilà pour ces propos après l'échec donc de ce programme A380 dont Airbus a pris acte. Un dernier chiffre en économie, l'économie allemande qui a stagné au quatrième trimestre fin 2018. L'économie allemande échappe de peu à la récession en cette fin 2018. La politique en France, Emmanuel Macron dans l'Indre aujourd'hui, nouveau show dans le cadre du Grand Débat, rencontre avec des maires et des entrepreneurs. L'Élysée promet que les échanges à Gargilès 300 habitants seront plus courts que les précédents. Le président débat, il n'est pas le seul. Parmi les dizaines de débats organisés en France aujourd'hui, celui-ci cet après-midi dans un lycée Albert Camus de Bois-Colombes en région parisienne. Particularité, il a été mis sur pied par deux élèves de terminale. C'est le deuxième débat à l'heure active, Béatrice Duguay. Les autres élèves apprécient.
Daphné est encore toute épatée, 16 ans, élève de première S. Elle a participé au premier débat le 31 janvier dernier.
C'est très courageux d'avoir fait les démarches administratives pour y arriver. Donc c'est quand même assez incroyable dans un lycée d'avoir pu parler de sujets assez divers, alors que d'habitude dans un lycée on n'a pas trop le droit d'émettre d'avis ni politique ni économique, tout ça. Donc c'était très enrichissant. Ouais.
L'organisateur, c'est Baptiste, 17 ans, en terminale S, soucieux de faire entendre la voix des jeunes sur la transition énergétique. Restait à convaincre.
Finalement, on a fait nos recherches plutôt bien à propos du grand débat sur la charte. On a essayé de tout vraiment respecter pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'il y aura beaucoup d'élèves ou non? Mais on avait quand même confiance parce qu'on sait qu'il y en a qui se sentent vraiment touchés ici.
Sur les 1300 élèves du lycée, 35 sont venus. Et si Baptiste dit « on », c'est parce que son copain Paul, en terminale lui aussi, l'a bien aidé en réalisant notamment une petite vidéo diffusée dans les classes, en placardant les affiches, en installant les chaises dans la salle.
Petit moyen, mais efficace. C'est un lycée où on a quand même des élèves qui ont plein d'idées et on a aussi nos professeurs à part en cours. On leur parle rarement. On s'est dit, voilà, c'est eux qui vont nous aider et qui vont nous apporter des nouvelles choses en tant que professeurs.
Les enseignants qui ont joué les secrétaires pendant le premier débat, avant que Paul et Baptiste ne s'attaquent au compte-rendu.
J'ai entre guillemets délaissé quelques exercices à faire, je vais dire. Mais...
3 heures de travail, la préparation du bac ne devrait pas en souffrir.
Voilà pour ce reportage de Béatrice Duguay et les échanges entre Emmanuel Macron et les élus qui ont commencé à Gargilès-Dampierre dans l'Indre. Nous avons commencé ce journal avec les adieux d'Alain Juppé à Bordeaux. Chronique de la droite suite les préparations des européennes. Tête de liste François-Xavier Bellamy, Élodie Forêt. Comme le Rassemblement National et les Insoumis, mais c'est plus surprenant pour le grand parti de droite, le budget de la campagne est difficile à boucler.
Oui, le financement, gros bémol d'un lancement de campagne par ailleurs plutôt réussi chez les LR, mais en politique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et là, c'est une sacrée somme, 4 millions d'euros que doit emprunter la tête de liste François-Xavier Bellamy, soit un montant remboursé pour cette élection européenne. Mais malgré cette assurance de remboursement, trouver une banque qui vous fasse un prêt est un casse-tête sans nom. La banque historique des LR ne veut pas ouvrir de nouveaux comptes pour l'instant. Le CIC, la banque de François-Xavier Bellamy, n'est pas très partante non plus. Des banques qui, nous expliquent-on, laissent les partis dans l'incertitude, ne disant jamais vraiment non, temporisant, demandant des pièces qu'elles ont déjà. Une situation que regrette la direction du parti. Hormis En Marche, qui est un rouleau compresseur, les autres formations politiques sont paupérisées. Les LR qui, pour l'instant, prêtent donc eux-mêmes de l'argent à leurs candidat, une levée de fonds auprès des militants pourrait être envisagée.
Merci Élodie. Dans l'actualité encore, ce chiffre 2 131 000 signatures. La pétition des 4 organisations qui veulent poursuivre l'État pour inaction face à l'urgence climatique. Cette pétition continue son impressionnant bonhomme de chemin et des responsables des 4 organisations ont été reçus ce matin à Matignon. Aucune nouvelle promesse d'action du Premier ministre contre le changement climatique, estime-t-il. Ils vont donc mettre leur menace à exécution la semaine prochaine et porter l'affaire en justice. Jean-François Julliard de Greenpeace.
On n'a pas eu d'annonce de mesures supplémentaires pour lutter contre le dérèglement climatique ou d'engagement du gouvernement à faire plus. On a plutôt eu droit à une sorte de satisfecit de la part du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique. Ils nous ont rappelé à quel point ils font des choses. Il y a de fortes chances pour qu'on aille jusqu'au recours parce qu'effectivement, comme ils ne nous ont pas rassurés sur le fond, encore une fois, on va examiner la réponse écrite qui va nous être faite là dans les jours qui viennent. Mais à ce stade-là, on n'a pas d'indication, on n'a pas d'éléments laissant penser que le gouvernement va rehausser son action pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc ça veut dire qu'on reste déterminé à déposer ce recours et aller jusqu'au bout en justice devant un tribunal administratif pour tenter d'avoir à la fin une décision judiciaire qui contraigne le gouvernement là où on n'a pas réussi à le convaincre.
Un propos recueilli par Célia Quiret. Une interview France Inter à présent à votre micro, Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Une interview du Premier ministre tunisien, certains disent futur président. Et Youssef Chahed est en France pour deux jours et c'est important de l'écouter parce qu'au fond, le discours qu'il tient, Nathanaël, c'est aider la Tunisie, c'est avant tout protéger l'Europe.
Oui, le Premier ministre tunisien le dit sans détour. Aider la Tunisie, c'est la meilleure façon pour l'Europe de se protéger.
Moi, je le dis pour l'Europe d'une façon générale. D'abord, en matière de sécurité, un pays comme la Tunisie, je considère que nous protégeons les frontières sud de l'Europe.
Mais Youssef Chahed d'enfoncer le clou en expliquant que son pays a fait un énorme travail depuis la révolution de 2011, mais qu'il se trouve à un moment compliqué, avec des défis économiques, avec des défis en matière de sécurité. Alors oui, aider la Tunisie, cela a un coût, mais l'enjeu est de taille.
C'est une démocratie qui est née à une heure de l'Europe, et donc il faut la préserver, il faut l'aider à se développer. Il ne faut pas traiter la Tunisie comme un pays. C'est une exception d'avoir une démocratie dans cette région du monde, avec un président élu au suffrage universel, avec un conseil supérieur de la magistrature, bientôt une cour constitutionnelle. Tout cela, c'est la mise en place de la démocratie tunisienne, ça a un coût. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait aider et se mettre avec la Tunisie pour assurer un avenir meilleur de cette région.
Aider la Tunisie, l'affaire est entendue, reste à savoir comment. Et finalement, la solution est assez simple, il faut changer notre manière de voir la Méditerranée.
La Tunisie, c'est une délocalisation de proximité ou proche qui permettra de pérenniser des emplois en Europe et en France particulièrement. Je connais des entreprises à Toulouse ou à Montpellier ou à Lyon qui devaient fermer, hein, faute de compétitivité, qui sont venues en Tunisie, qui ont créé des emplois en Tunisie, qui ont pérennisé des emplois en France. Ça a permis de faire face à une compétitivité accrue dans le monde. Ça, c'est un exemple de co-développement dans le domaine économique qu'on pourrait développer davantage.
Enfin, le Premier ministre tunisien n'oublie pas que l'élection présidentielle approche en Tunisie, vous l'avez dit Bruno, elle aura lieu en fin d'année, on lui prête donc une ambition et rappeler à la France qu'il peut devenir le garant de la stabilité dans la région, c'est peut-être aussi l'autre message qu'il entend faire passer avec sa visite.
Les États-Unis mettent un peu plus la pression sur l'Iran et l'Europe. Le vice-président Mike Pence demande ce matin aux alliés européens de se retirer de l'accord nucléaire sur l'Iran. Petit à petit, au fil des mois, les règles de la société numérique se mettent en place. À Paris, le gouvernement prépare une série de mesures contre la haine en ligne, il en était question ce matin. Dans le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé, c'est à réécouter Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique sur franceinter.fr. Et puis au plan européen, un accord sur le droit d'auteur pour que soient payés enfin les artistes et les journaux dont le travail est régulièrement repris sur les grandes plateformes. Un accord a été trouvé. L'Europe, justement, souvent accusée de naïveté face aux investisseurs chinois. Eh bien, ce n'est peut-être pas si vrai que cela, ou en tout cas plus si vrai que cela. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Votre chronique européenne chaque jeudi dans ce journal de 13h. Le Parlement européen adopte aujourd'hui un nouveau mécanisme pour mieux se protéger des appétits chinois.
Oui, voilà, le Royaume-Uni devant la Suède et l'Allemagne, c'est le hit parade, Bruno, des pays d'Europe qui aiguisent les appétits des compagnies chinoises, selon le baromètre du cabinet Rhodium Group. La France est cinquième dans ce baromètre et ce qui intéresse le plus les Chinois, c'est d'abord le tourisme. On se souvient du Club Med racheté par Fosun. Il y a aussi l'automobile, Peugeot en France, Mercedes-Benz en Allemagne, les pneus Pirelli en Italie ou encore les grandes infrastructures. Le TGV hongrois, Budapest, Belgrade et le port du Pirée en Grèce. C'est désormais la nouvelle porte d'entrée de la Chine en Europe. Pékin l'a annoncé, il veut être leader mondial sur 5 secteurs stratégiques d'ici 2025 et il ne regarde pas à la dépense.
Est-ce que les Européens, Delphine, sont tous d'accord pour se protéger ?
Eh ben, les débats sont très durs car d'un côté, il y a 12 pays dont la France qui disposent déjà d'instruments de contrôle dans des secteurs stratégiques, les télécoms ou la défense. À l'inverse, plusieurs pays sont très hostiles. La Grèce ou le Portugal ont besoin des investissements étrangers pour faire tourner leur économie. D'autres, comme les pays nordiques, sont très attachés à l'ouverture des marchés. Ceci dit, le vent tourne. Même la République tchèque ou le Danemark sont en train de revoir leur position.
Et qu'est-ce qui change ?
Eh bien, il y a une prise de conscience, y compris en Allemagne, un pays pourtant très ouvert. L'affaire Kuka en 2016 a servi d'électrochoc. Kuka, c'est le champion des robots made in Germany. Le fabricant de machines-outils est devenu chinois. La même année, les investissements de l'Empire du Milieu en Allemagne ont atteint 12 milliards d'euros. C'est 20 fois plus que l'année d'avant. Pour bloquer certains de ces investissements chinois, Berlin a été obligé d'invoquer la sécurité nationale, une première outre-Rhin.
Et à quoi va servir ce nouvel instrument européen ?
Aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut chez soi. Or, les réseaux européens sont de plus en plus interconnectés. Si on investit dans des batteries électriques, par exemple, c'est toute l'industrie automobile européenne qui peut être concernée. Ce mécanisme crée une alerte européenne. Chaque État restera, bien sûr, décisionnaire chez lui, mais il sera tenu d'informer ses voisins et la Commission européenne donnera son avis sur l'opportunité de l'investissement. Si le pays s'écarte de cet avis, eh bien, il faudra qu'il donne des explications à ses voisins. Et politiquement, c'est assez compliqué. Bref, il s'agit d'un nouvel instrument de défense économique. Et à 100 jours des élections européennes, il s'agit bien sûr aussi de montrer qu'il y a aussi une Europe qui protège.
Franceinter.fr pour retrouver la chronique de Delphine Simon à jeudi prochain. Les touristes n'ont plus peur de venir à Paris et dans sa région pour la deuxième année consécutive. La région parisienne et la capitale ont accueilli un nombre record de touristes l'année dernière. 35 millions d'arrivées hôtelières, c'est le baromètre, un creux en décembre lié à la mobilisation des gilets jaunes. C'est une des nombreuses blessures qui ne cicatrisent pas dans le rugby français. La façon dont l'ex-entraîneur des Bleus, Guy Novès, coach dur mais unanimement respecté, a été viré, c'était en décembre 2017. L'affaire va se régler devant les prud'hommes de Toulouse. Jérôme Val, Novès réclame près de 3 millions d'euros à la Fédération française de rugby.
Pour la première fois dans l'histoire du 15 de France, un sélectionneur a été viré en plein mandat pour faute grave, selon la fédération. Elle reproche à Guy Novès ses méthodes de management et l'absence de contact avec les clubs du top 14. Des critiques balayées par Novès qui n'a jamais été reçu pour un entretien préalable à son licenciement. À 65 ans, il n'a qu'une obsession, que la vérité éclate. Une première séance de conciliation avait échoué en mai dernier. Cette fois, les avocats de l'ancien sélectionneur ont prévu 21 points pour justifier la somme de 2 900 000 euros, des arriérés de salaire jusqu'à la fin de son contrat, le paiement d'heures supplémentaires, du harcèlement ou encore un préjudice de réputation. L'enjeu de cette audience est de taille pour Novès, l'entraîneur français le plus titré, et pour la fédération qui n'a pas vraiment les moyens de payer cette somme. Son dernier budget était en déficit de plus de 7 millions d'euros.
Début de l'audience à 14h. Allez, vos enfants ou vous-même ont peut-être déjà visionné une bonne dizaine de fois ceci dont on entend derrière moi la bande sonore. Une jeune fille blonde aux immenses yeux clairs marche sur l'eau et c'est de la glace qui se forme sous ses pas. Vous aurez reconnu Elsa, l'héroïne de La Reine des Neiges. Voici le numéro 2, en tout cas la bande-annonce. Film en salle le 20 novembre prochain. Le premier épisode a fait un triomphe, notamment grâce au succès de la chanson Libérée, Délivrée. Alors Disney va-t-il retrouver la martingale ? Quelle est la recette de la chanson à succès ? Au micro de Sébastien Sabiron, réponse de Laurent Vallière, spécialiste de comédie musicale, parce que Libérée, Délivrée est inspirée d'un titre de comédie musicale.
Il y a une chanson qui s'appelle Defying Gravity. Et en fait, La Reine des Neiges reprend exactement ce principe-là. Il y a les mêmes envolées lyriques et le même fait qu'au milieu de la chanson, tout d'un coup, la jeune fille se transforme. Et puis, c'est une chanson pop avec en plus des chromatismes. Donc, à chaque fois, on change de gamme. Au fur et à mesure, voilà, la voix est de plus en plus projetée. Ça demande des performances vocales assez impressionnantes de la part de la chanteuse. Effectivement, il y a un côté certainement répétitif aussi dans la chanson qui fait qu'elle rentre dans la tête et qu'elle n'en sort plus.
Et vous pensiez y échapper, bien non? Allez, ne me remerciez pas, ce sera la petite dose de sucre à l'occasion de la Saint-Valentin. Le temps sera-t-il glacial? On voit ça.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, beaucoup de soleil.
L'anticyclone est bien installé, on profite du soleil quasiment partout, du nord de la Seine à l'Alsace. Quelques nuages élevés décorent le ciel ici ou là, mais ça n'a aucune conséquence. On trouve un peu plus de nuages entre l'Aude et l'Hérault, apportés par un vent de sud-est qui se prolonge jusqu'en région toulousaine, avec des rafales jusqu'à 70 km à l'heure. Côté thermomètre, ça monte, 11 à 14 degrés au nord cet après-midi, 11 à Nancy, Amiens, 13 à Paris, 14 à Nantes et à Nevers. Au sud, 14 à 18 degrés, 15 à Lyon, Marseille, Toulouse, 17 à Bastia et 18 à Biarritz. Demain, comme aujourd'hui, quelques grisailles matinales vite oubliées, des nuages un peu plus nombreux vers le Languedoc-Roussillon, du vent d'autant et puis des températures fraîches le matin mais agréables l'après-midi.